Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 19h30 à Bamako, 20h30 à Niamey. Bienvenue dans la troisième édition du Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, 9 soldats maliens ont été tués dans une embuscade. Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë en Somalie. La Chine exige l'arrêt immédiat du bouclier antimissile américain en Corée du Sud. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Mali, un convoi de l'armée est tombé dans une embuscade entre Dogofri et Nampala, dans le centre du pays. 9 soldats ont été tués et 5 autres blessés. 2 véhicules ont été également détruits. Une dizaine de soldats sont portés disparus. Modibo Dembélé a pu joindre le colonel Diarankone, porte-parole de l'armée malienne.
Aujourd'hui, effectivement, entre midi et 13h, nous avons un élément de ravitaillement famant, donc sur l'axe Nampala-Diabali, qui est tombé dans une embuscade. Malheureusement, nous déplorons la perte de près de 9 de nos personnels, 2 véhicules perdus et il y a aussi 5 blessés. Nous déplorons tout ce qui est prompt rétablissement et se présenter leurs condoléances. Maintenant, l'occasion est opportune pour nous aussi de nous saisir de votre micro pour en appeler à toutes les bonnes volontés, notamment aux populations, qu'elles puissent intervenir et dénoncer par la voix qui s'est venue toute tentative, toute suspicion. Et sans cela, la lutte antiterroriste n'est vraiment plus une question purement militaire, c'est une question transverse, c'est une question pour tout le monde. Donc j'en appelle à l'esprit de compréhension de tout le monde.
Vous n'avez aucune idée sur l'identité des assaillants?
Pour l'instant, l'identité des assaillants, c'est des actes terroristes, tout simplement.
Le colonel Diarankone, porte-parole de l'armée malienne. Et toujours sur le thème de l'insécurité dans le Sahel, le commandant de la force Barkhane, le général François-Xavier de Walmont, a affirmé aujourd'hui à Ouagadougou que l'opération militaire française contre des djihadistes à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso n'est pas terminée. Une opération a eu lieu le week-end dernier dans la forêt de Foulsaré au sud-ouest de Gao, au cours de laquelle la force française Barkhane a annoncé avoir tué ou capturé une vingtaine de djihadistes. Le Libéria a enregistré, y compris dans sa capitale, Monrovia, de nouveaux cas de la maladie non identifiée provoquant fièvre et vomissements. Cette maladie, qui a été testée négative à Ebola, a fait 12 morts en moins de 10 jours, selon le ministère libérien de la Santé. Le Burundi fait face depuis plus d'une semaine à une très grave pénurie d'essence en raison du manque de devises, selon le gouvernement. Le pays est plongé depuis 2 ans dans une grave crise politique. Quelques 400 soldats britanniques vont être déployés dans les semaines à venir au sein de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Le contingent britannique, le premier déployé au sein de la MINUS, est composé de personnel médical et de spécialistes en ingénierie. Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie et ils courent des risques très élevés de mourir. C'est ce qu'a dit aujourd'hui l'UNICEF. Le point avec Tatiana Mosso.
La projection du nombre d'enfants qui souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë a augmenté de 50% depuis le début de l'année à 1,4 million, a déclaré une porte-parole de l'UNICEF, précisant qu'il s'agissait de projections pour 2017. Les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent des risques 9 fois plus élevés de mourir que les enfants bien nourris. En 2011, la dernière famine en Somalie a tué au moins 260 000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de 5 ans, selon le programme alimentaire mondial. La Corne de l'Afrique est touchée par une grave sécheresse qui a déplacé plus de 615 000 personnes en Somalie depuis novembre dernier, alors que le pays comptait déjà quelque 1,1 million de déplacés. L'appel de fonds d'urgence de l'ONU de 720 millions de dollars pour la Somalie est financé à hauteur de 58%, a indiqué mardi Jens Lear, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU.
Airbus et Ethiopian Airlines ont profité de la livraison du tout premier A350XWB à la compagnie éthiopienne pour convoyer de Toulouse à Addis Abeba 9 tonnes de produits de secours destinés aux zones d'Afrique orientale exposées à la sécheresse. Ce fret humanitaire comprend des kits pour maladies diarrhéiques, des rations alimentaires d'urgence, des kits médico-sanitaires d'urgence et des vêtements. Les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement d'union, et le maréchal Khalifa Haftar, se sont rencontrés aujourd'hui à Abu Dhabi. Le point avec Idriss Fall.
Le maréchal Khalifa Haftar a rencontré ce matin Fayez el-Sarraj à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. D'après la chaîne de télévision libyenne 218, les deux rivaux ont posé pour les photographes avant de s'entretenir à huis clos et rien n'a filtré à l'issue de leur discussion. Un premier tête-à-tête entre les deux hommes a déjà eu lieu en janvier 2016, peu après la désignation de M. Sarraj à la tête du gouvernement basé à Tripoli. Il devait se retrouver à la mi-février au Caire pour négocier des amendements à l'accord politique signé en décembre 2015 sous l'égide des Nations Unies. Cet accord ne prévoyait aucun rôle pour M. Haftar, dont les forces contrôlent une grande partie de l'Est libyen. Après cette rencontre avortée, M. Sarraj avait estimé qu'une occasion précieuse a été manquée pour trouver un début de solution à la division et aux souffrances des Libyens.
6 ans après la chute de la dictature en Tunisie, un collectif d'ONG locales et internationales a mis en garde contre un recul de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Ces ONG, dont Reporters sans frontières et le syndicat des journalistes tunisiens, s'inquiètent du projet de loi du gouvernement qui prévoit la création d'une instance de régulation de la communication audiovisuelle et de la récente interdiction d'un hebdomadaire. Mohamed VI, le roi du Maroc, est en France pour une visite privée à dimension politique et culturelle. Mohamed VI avait été le 24 mai 2012 le premier chef d'État accueilli à l'Élysée par le président Hollande après son élection et il pourrait être le dernier avant la fin du mandat de Hollande dans quelques jours à la mi-mai. Au Malawi, 14 adolescentes ont contesté devant la justice un règlement scolaire qui punit d'un an d'exclusion et d'une amende les jeunes femmes enceintes. En avril 2016, ces écolières avaient été condamnées par un tribunal local à payer, du fait qu'elles étaient enceintes, des amendes de près de 13 euros. Le tribunal avait même ordonné le placement en détention des parents qui n'avaient pas pu payer sur le champ leurs amendes. Les jeunes femmes ont fait appel devant la haute cour de Mzuzu qui tranche dans les mois qui suivent. Le Rwanda va réintroduire une espèce disparue, les rhinocéros noirs, dans le parc naturel de l'Akagera. L'espèce a disparu au Rwanda il y a 10 ans. Nous reviendrons sur l'espèce menacée, ce rhinocéros, en Côte d'Ivoire, dans notre partie magazine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, le président Vladimir Poutine a appelé aujourd'hui à renforcer le cessez-le-feu en Syrie à la veille de l'ouverture de nouveaux pourparlers de paix à Astana, auxquels participeront des délégations du régime syrien et des rebelles. La Chine exige l'arrêt du système de défense antimissile dont les États-Unis ont annoncé lundi la mise en service en Corée du Sud. Les précisions de Timothée Donangmai.
Le Terminal High Altitude Defense, TAD, est un bouclier censé protéger la Corée du Sud de missiles tirés par la Corée du Nord. Il a une capacité initiale d'interception, mais les travaux doivent se poursuivre dans les prochains mois pour le rendre entièrement opérationnel, ont fait savoir des responsables américains de la défense. La Chine estime que c'est une menace potentielle et s'oppose au déploiement du système TAD en Corée du Sud. Nous appelons les parties concernées à arrêter ce déploiement immédiatement et nous prendrons fermement des mesures nécessaires pour défendre nos intérêts, a déclaré Geng Shuang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'est dit encouragé par les dernières déclarations du président Donald Trump, qui a assuré lundi être prêt à rencontrer le leader nord-coréen si toutes les conditions étaient réunies.
La ministre allemande de la Défense a annulé un déplacement aux États-Unis demain et jeudi en raison du scandale autour d'un militaire, un officier de 28 ans soupçonné de préparer un attentat et qui se faisait passer pour un réfugié syrien depuis plus d'un an. Le parquet fédéral allemand a été saisi de l'enquête sur cette affaire rocambolesque. En Israël, les forces de sécurité ont abattu un jeune juif israélien de 20 ans qui courait vers la police armé d'un couteau à un point de passage entre Jérusalem et la Cisjordanie occupée. Les forces de sécurité israéliennes positionnées au checkpoint sont l'une des cibles privilégiées d'une vague d'attentats menée par des Palestiniens isolés depuis le 1er octobre 2015. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Jacques Aristide.
Le Sénégal et la Côte d'Ivoire veulent accélérer leurs échanges commerciaux plus de 45 ans après la signature d'accords commerciaux entre les deux pays. C'est du moins ce qui ressort d'un forum sur les partenariats économiques sénégalo-ivoiriens pour l'intégration régionale et l'émergence qui s'est tenue récemment à Abidjan. Selon des participants, les deux pays n'ont pas encore exprimé toute leur potentialité dans les domaines du commerce et de l'investissement, d'où la nécessité de nouvelles initiatives, notamment du secteur privé. La production tunisienne de phosphate a augmenté de 46% au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l'an dernier. Elle a atteint 1,33 million de tonnes. Le ministère tunisien de l'énergie attribue cette hausse au fait que la principale région productrice de phosphate dans le sud connaît moins de mouvements sociaux comme les grèves et sit-in. Les exportations de phosphate et le tourisme sont des piliers de l'économie tunisienne. Le Fonds monétaire international estime que l'Égypte doit faire du combat contre la montée de l'inflation une priorité pour pouvoir améliorer son économie. Une mission du FMI est actuellement dans le pays pour passer en revue les réformes économiques entreprises par le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi. Le Caire attend de recevoir la deuxième tranche d'un programme de prêt sur 3 ans de 12 milliards de dollars du FMI.
Et la page sport maintenant, présentée ce soir par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
Alors bien évidemment du foot et la première demi-finale ce soir en Ligue des Champions, les deux Madrid encore face à face.
Oui, on est déjà à la mi-temps et le Real mène 1-0, un but marqué par Ronaldo. Et le théâtre de l'affiche de ce soir se produit dans le luxueux stade Santiago Bernabéu, tandis que le match retour est attendu le 10 mai et se jouera au stade de l'antique Vicente Calderon. Alors Claire, ce match, c'est une revanche des finales 2014 et 2016 remportées par le club merengue, éternel gagnant aux dépens de son voisin Colchonero. Eh bien, l'Atlético Madrid espère renverser la vapeur et pourquoi pas effacer les larmes de ces deux Champions League qu'ils ont perdues.
Et demain, Eric, le Monaco de Mbappé contre la Juventus de Buffon.
Paulo Dybala, numéro 21 de la Juventus, au talent de grand numéro 10 sur le danger numéro 1, sera le danger numéro 1 pour Monaco. Il y a deux maillots mythiques à la Juventus, Claire. Le 10 qui a été porté par Platini, Michel, Roberto Baggio et Del Piero, où pendant un an seulement, Paul Pogba et le 21, celui de Zidane, de Pirlo et de Dybala, sont doublés face à Barcelone. En quart de finale, l'a élevé au rang de quasi-messi et de candidat possible au Ballon d'Or dans un très proche avenir. Cependant, Claire, il faut dire que Monaco est très en forme en ce moment. Pourquoi pas effacer les larmes de 2015, un quart de finale de Ligue des Champions qui s'était joué sur un pénalty face à la Juventus. Une rencontre entre jeunes loups et vieux renards.
Quelques mots sur la 35e journée du championnat d'Angleterre. Le plus beau but du milieu de Liverpool, Emre Can.
C'est l'international allemand de 23 ans qui a repris deux volées, une passe en profondeur. Le but de Lucas Leiva d'un ciseau retourné en pleine lucarne dans le temps additionnel de la première partie. Claire, c'est le plus beau but que j'ai jamais marqué. C'est réjoui Can au micro de Sky Sports. Et Liverpool est actuellement 3e de Premier League, 3 points devant Manchester City et 4 devant United, qui comptent tous deux un match en retard.
Et puis peut-être quelques mots de la NBA.
Les stars sont là avec un LeBron James hyperactif, Cleveland qui défend son titre à dominer Toronto 116-105 dans la conférence Ouest. James Harden a permis à Houston d'atomiser San Antonio 126-99. C'est l'équipe de Gabby. Les Spurs et les Rockets se sont affrontés pour la première fois en playoff depuis 1995. Claire.
Merci beaucoup, Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Et nous partons en RDC où les violences se poursuivent dans le Kasaï. 5 inspecteurs de l'éducation nationale ont été décapités dans le village de Mukonde dimanche dernier alors qu'ils devaient superviser les épreuves nationales du baccalauréat. Eddie Sango a joint sur place le coordinateur provincial de l'association congolaise pour l'accès à la justice, maître Adrien Ilabkoué.
Nous confirmons l'information parce que il y a même parmi les 5 là, mon beau-père qui fait partie de ceux-là qui étaient décapités. Pendant que je vous parle, il y a 2 chez lui à la maison. On a retrouvé à peu près 3 corps sans tête. Ils ont été surpris entre Bungonde dans leur jeep. Ils ont été interceptés. On les a appelés pour les descendre. Ils sont surpris. On leur a demandé de se présenter. Ils se sont présentés et le milicien leur a dit « La mission à laquelle vous allez, il n'y a ni prêtre ni sœur. » Tout le monde a pris les inspecteurs, leur ont dit « Si tel est le cas, vous pouvez nous autoriser et rebourser chemin. » Bon, ils ont exigé de l'argent. Ils se sont cotisés, ils ont donné de l'argent, mais par après, ils ont été appelés d'aller se présenter devant leur chef. On ne sait pas c'était quel chef. Ils sont allés, ils ont laissé tous leurs biens là-bas. Et au niveau de ce village-là, ils ont été décapités.
Mais les violences continuent dans cette partie du pays, de la RDC, alors qu'une solution a semblé être trouvée. Les gouvernements a permis la désignation d'un nouveau chef et a remis le corps de l'ancien chef Kamena Nsapu à sa famille qui a été enterrée selon le rituel traditionnel.
Nous assistons là au son des cloches. Ceux-là qui estiment que le chef a été abattu et ceux-là qui soutiennent que non, non, le chef est bel et bien vivant. Ce sont ces adeptes qui continuent toujours à tracasser la population et au jour d'aujourd'hui. Et puis, il faut reconnaître que la situation est incontrôlable parce que ces miliciens-là n'ont pas quelqu'un qui les dirige. C'est comme ça que tout leur est permis. C'est comme ça qu'eux s'opposent contre le nouveau chef qui a été choisi par la famille régnante.
On apprend qu'ils exigeraient la mise en application plutôt de l'accord et la désignation de Félix Tshisekedi.
Ça, c'est le groupe qui a déposé les armes. Hein. C'est ce groupe-là qui revendiquait l'application de l'accord.
On parle de plus en plus de cas de décapitation à part les experts de l'ONU, leurs accompagnateurs, des policiers, mais un peu chaque jour, on parle de cas de décapitation. Par quoi cela s'explique-t-il?
Cela est devenu un véritable règlement de compte. Lorsque je ne m'entends pas avec Eddie et Sango, il faut aller vite voir le milicien pour leur dire que non, voilà ce que Eddie m'a fait. Et les miliciens viennent là, ils vous appellent, si vous répondez, ils vous posent des questions, vous payez des amendes, ils vous laissent. Et si vous refusez d'aller répondre à leur justice, à ce moment-là, ils montent des stratégies pour vous arrêter à n'importe quel endroit. Ils vous décapitent sans aucune forme de procès.
Maître Adrien Ilabkoué, coordinateur provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice au Kasaï central.
Dans Washington Forum ce jeudi, la journée mondiale de la liberté de la presse. Après les baisses d'audience parmi les médias traditionnels, la diminution des profits et les allégations d'une déconnexion croissante entre les médias et leur public, la prolifération des fausses informations et les faux reportages sont les défis les plus récents auxquels fait face le secteur. Où en est la liberté de la presse à travers le monde? Comment défendre l'indépendance des médias? Ou comment se portent les médias dans votre pays? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h temps universel avec Timothée Donangmaï et ses invités.
En République centrafricaine, selon Human Rights Watch, 45 personnes ont été tuées et 11 000 déplacées ces trois derniers mois suite à des attaques de groupes armés sur des civils. Le pays sort à peine d'une guerre civile meurtrière. Pour un état des lieux, Solange Nyamulisa a joint Lewis Mudj, chercheur à Human Rights Watch à la division Afrique.
Donc, nous à Human Rights Watch, on continue d'être tellement inquiétés par rapport à la situation au centre du pays. Depuis la fin de 2016, il y a deux groupes des ex-sénégalais qui continuent de s'affronter entre eux. Et le niveau de cette violence continue d'augmenter. Donc, en novembre 2016, en décembre 2016, en janvier et en mars 2017, et maintenant en avril et mai 2017, on a constaté plusieurs dizaines de civils qui étaient tués et ciblés d'ailleurs par des groupes armés. Lorsqu'on parle de groupes armés dans cette zone, on parle de deux groupes des ex-Seleka, les FPRC et les UPC. Donc, bien sûr, il y a la présence de la Nations Unies, mais selon New Human Rights Watch, cette nouveau des gens qui continuent d'être tués, c'est complètement inacceptable.
Et pourquoi la reprise des violences?
La reprise des violences, bon, c'est entre deux groupes des ex-Seleka. Ils ont commencé de s'affronter par rapport au contrôle de mine dans la zone. La province de la Waka, c'est une zone avec beaucoup de mine d'or. Donc, ils ont commencé de s'affronter entre eux au mois de novembre 2016 par rapport de contrôler les mines.
Et est-ce que vous pensez que le pays risque de basculer de nouveau dans une guerre civile?
Bon, c'est difficile de dire qu'en fait, il n'y a pas une guerre civile actuellement. Le pays, ce n'est pas stable. La capitale, Bangui, et le sud-ouest du pays, ils sont plus ou moins stables là-bas. Mais le nord-ouest et le centre du pays, on ne peut pas dire que c'est stable. Au sud-est, nous avons toujours la présence de la LRA de Ouganda. Et les forces ougandaises et les forces américaines viennent d'annoncer qu'ils vont quitter cette zone. Donc ça va créer encore le travail pour les MINUSCA, pour les forces onusiennes de faire. Parce que le sud-est, New Human Rights Watch, on estime que le sud-est, ça va être très chaud très bientôt.
Lewis Mudj, chercheur à Human Rights Watch de la division Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, difficultés dans l'éducation des enfants réfugiés de Centrafrique installés dans quatre camps du département de la Niapende, région du Logone oriental. Les élèves quittent les salles de classe pour se lancer dans des activités qui leur donneront un peu d'argent pour assurer leur survie. André Komadjenga est allé à la rencontre de ces réfugiés. Écoutons son reportage.
Salut. Il est 11h, heure locale, nous sommes dans la salle du cours préparatoire moyen de l'école communautaire du camp de Gondje. Dans cet établissement, le taux de fréquentation est en baisse. Le directeur de la dite école, Mandiganouji André, donne les chiffres comparatifs de ses élèves.
L'année passée, j'ai 1230. Cette année, je me retrouve avec 628 élèves, dont 289 garçons et 238 filles. On a 8 bâtiments de 32 salles, mais on fonctionne avec 13 salles pour le moment.
Le secrétaire général du camp de Gondje, Dumkel Armand, explique les raisons de cette déperdition scolaire.
Selon les parents, c'est la réduction de vivres et puis la suspension de vivres dans d'autres catégories qui a fait que les enfants n'ont pas pu avoir la nourriture nécessaire pour leur survie. Donc eux-mêmes se lancent à la recherche des pailles ou des fagots pour aller vendre afin de subvenir à leur pays.
L'assistant en éducation de l'ONG Accra, Serferbe Blaise, confirme le faible taux de fréquentation des élèves dans les écoles de trois autres camps, notamment Amboko, Dossey et Doulou. Il informe par ailleurs que même les établissements publics de la zone sont touchés.
Le taux est effectivement en baisse contrairement à l'année passée parce que quand on voit déjà le nombre est presque à la moitié de l'année passée et là ce n'est pas seulement les écoles du camp qui sont touchées sur les 136 écoles que le département abrite, les 33 écoles publiques sont fermées.
Moïmoune Rum Victor, proviseur du lycée mixte de Timbiri dans le département de la Niapende, où fréquentent les élèves réfugiés et autochtones, nous fait le point.
L'année qui était presque blanche, le gouvernement a tout fait pour que l'année ne soit pas blanche. Et quand on a repris en janvier, pour beaucoup d'élèves, c'est que l'année est déjà passée et que ça ne sert absolument à rien de venir perdre le temps ici. Donc il y en a qui reviennent, mais ça ne dépasse même pas la moitié des 700 élèves que nous avons prévus au début. En terminale, je vous dis que je suis avec 7 élèves seulement. C'est presque chaque jour que le nombre des élèves diminue.
En 2016, les statistiques des élèves dans les camps étaient de plus de 5000 élèves régulièrement inscrits. Mais pour l'année en cours, l'effectif global est de 4054 élèves réfugiés centrafricains dans les quatre camps. André Kodnumadjingar-Goré dans le département de la Niapende pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Et comme promis, nous revenons sur cette espèce menacée d'extinction, le rhinocéros. La Côte d'Ivoire tente de protéger le seul animal qui reste en Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Ibrahim Tunkara.
Il y a une vingtaine d'années, l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk offrait à son homologue ivoirien Félix Houphouët-Boigny un couple de rhinocéros blancs. De ce couple est né un jeune rhinocéros. Si l'on est jusque-là sans nouvelles du couple, sans doute tué par des braconniers, le petit rhinocéros a quant à lui grandi et erre dans des villages dans la région de Dimokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Seulement voilà, la mort il y a quelques semaines d'un chef de village tué par ce rhinocéros va rendre la cohabitation difficile. L'inquiétude s'est emparée des villageois qui veulent en découdre avec l'animal. Pour le gouvernement ivoirien, il faut sauver aussi bien les villageois que le rhinocéros, d'où le transfert dans quelques jours de l'animal vers un parc privé. Un transfert qui sera mené par des spécialistes sud-africains. Lui Diakité, propriétaire de la réserve qui va accueillir le rhinocéros.
On fait venir une équipe de vétérinaires experts d'Afrique du Sud pour s'assurer qu'elle sera faite dans de très bonnes conditions. Ensuite, il y a la capture, le transport, le réveil. Ce sont des opérations très très délicates, donc qui peuvent être faites que par des experts. Ensuite, il sera en quarantaine pendant un certain moment, dans ce qu'on appelle un boma, où on va le nourrir avant de le relâcher à l'état naturel.
Pour le directeur général des eaux et forêts, en plus du rhinocéros, d'autres espèces sont également menacées dans les forêts ivoiriennes.
Les lions, on a des traces mais on ne les voit plus. Et c'est ce qui nous a amené à importer des lions d'Afrique du Sud qui sont aux zoos aujourd'hui. Et déjà, nous avons eu 8 lionceaux. Il y a les panthères qui sont en voie de disparition. Il y a les pangolins qui sont en voie de disparition. Et surtout l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire qu'on doit protéger à tout prix. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire une nouvelle loi sur la faune et sa protection pour encadrer mieux encore la protection de ces animaux. Mais aussi, il faut que nous puissions sensibiliser les populations que ces espèces-là sont protégées intégralement.
Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
Voilà, les fans auront reconnu That's the Way Love Goes de Janet Jackson, qui a annoncé son retour sur scène avec le State of World Tour 50 suivi. Date de concert alors qu'elle est devenue maman à 50 ans il y a quelques mois et qu'elle vient d'annoncer également la séparation d'avec son mari. Beaucoup d'actualité pour Janet Jackson. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Merci à Michel Joseph à la mise en onde, Jonas Cumming à la console, Claire Moragibour au micro. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.